Donc je vous propose de commencer là, tout de suite la séance de cet après-midi. On aurait pu commencer par elle et faire celle de ce matin. Mais là, il s'agit toujours d'une comparaison entre France et Italie, de s'interroger à la fois sur des différences, mais aussi sur l'ignorance ou la méconnaissance de l'autre, qui est tout de même notre question fondamentale, et qui joue en particulier pour le thème des résistances et de l'après-guerre, qui joue de manière très particulière de la part de la France concernant l'Italie. Et ce qui fait que ça a été un facteur de méconnaissance même de cette guerre partisane de la part de l'opinion française, et puis un vécu des deux après-guerres qui s'est organisé de manière différente à partir de perception de l'autre, qui ont eu, je crois, une importance négative. Pour moi, toujours, il s'agit d'expliquer pourquoi il y a eu un certain... la double œuvre de Nuto Ravelli, son œuvre de constituteur d'archives d'un côté et son parcours personnel d'officier résistant et qui était un symbole aussi pendant les décennies de l'après-guerre, tout ça a été très largement méconnu, sauf par un petit nombre de spécialistes. Donc, on est d'accord, c'est la comparaison qui compte, et le programme de cet après-midi va s'organiser de nouveau, en commençant de nouveau par une intervention de Marco Ravelli.
Merci de nouveau. Et j'ai intitulé, avec un deuxième titre, ma communication. C'est-à-dire les deux vies de Nuto, qui traduit le thème que vous m'avez donné. Et pourquoi les deux vies? Il y a des événements dans l'histoire, Hegel les avait appelés cosmico-historiques, qui ont le pouvoir de diviser le temps, de diviser les époques historiques en deux. Et à l'intérieur de celles-ci, les biographies individuelles. Telles furent pour le monde les deux guerres mondiales, telles furent pour l'Italie en particulier les 20 mois de guerre partisane du 8 septembre 1943 au 25 avril 1945. Norberto Bobbio l'écrit de manière exemplaire dans son autobiographie lorsqu'il déclare que c'est moi qui ont marqué la transition sanglante de l'Italie fasciste à l'Italie républicaine, on était décisifs pour l'histoire de ma génération. Ils ont divisé, ou plutôt scindé, le cours de la vie de chacun d'entre nous en un avant et un après. Un avant dans lequel nous avons essayé de survivre avec un compromis inévitable avec notre conscience, et en exploitant les moindres espaces de liberté que le régime fasciste, une dictature plus douce que celle du nazisme, nous accordait. Un après dans lequel, à travers une guerre civile, parfois impitoyable, notre démocratie est née. Ailleurs, toujours Bobbio parle de cette période axiale comme d'un temps submergé. Submergé, écrit, parce que des événements dramatiques qui ont suivi, nous sommes ressortis complètement transformés et du moins, en ce qui me concerne, méconnaissables. Nous sommes réapparus avec beaucoup d'efforts au prix de beaucoup de souffrances, des preuves qui ont laissé des traces. Bobbio est né en 1909. En 1953, il avait 34 ans, il était au milieu du voyage de sa vie. Il appartenait à ce que l'on appelait la génération de naufragés, celle qui avait appris à connaître le fascisme et à le reconnaître comme la dictature qu'il était, et à le subir plus ou moins silencieusement en remplissant ses réserves mentales, en pratiquant ce qu'il définira comme une forme de nicodémisme, et qui devait, en atteignant la maturité, renaître à une nouvelle existence, complètement différente de la précédente, pour réinventer à Bimis les règles fondamentales de leur propre comportement individuel et collectif, ayant irrémédiablement disparu le monde de leur père. Nuto Revelli a 10 ans de moins. Il est né en 1919. Il appartient à ce qu'on appelait la génération du littorio, qui, contrairement à la précédente, a vécu entièrement dans l'univers fermé de la dictature, avec un processus éducatif totalement dominé par la rhétorique et les fausses vérités du régime, fausses mais absolues, dans une école alors totalement, ou plutôt totalitairement fasciste, dans une société dont l'imagination était entièrement occupée par le symbolisme du pouvoir, d'où toute voix dissidente avait été éradiquée. Une génération systématiquement condamnée à l'ignorance, comme il le dira lui-même dans la Lectio Magistralis prononcée en 1999, à l'occasion de la remise de la laurea d'honorem par l'Université de Turin, intitulé précisément « De l'ignorance ». Pour cette génération, la rupture du grand toit ne signifie pas seulement la fin d'une longue période d'ambiguïté, de retour à l'homme, comme dirait Bobbio, mais un véritable choc existentiel, un trou noir dans sa propre biographie, la révélation aveuglante d'une vérité ignorée, et la chute dans un univers de sang inédit, entièrement à réinventer, presque sans repérer ni guide. En été 42, à la veille de son départ pour le front russe, Nuto Revelli est un brillant officier de l'armée royale italienne, parfaitement identifié à son rôle et à sa mission. Il venait de sortir de l'Académie de Modena, élève choisi, très estimé par les supérieurs et les instructeurs pour son zèle et son sérieux. Naione, in gergo, on le surnommait. Il était dit l'Allemand en reconnaissance de son parfait esprit militaire. Dans son adolescence, il avait été un jeune fasciste, comme beaucoup de ceux de sa génération, impliqué avant tout dans les activités sportives avec lesquelles le régime entendait former les hommes nouveaux de la nation. « En fait, tout cela me plaisait », écrit-il dans le premier chapitre d'un de ses derniers livres, « Les deux guerres ». L'activisme paramilitaire me fascinait, et encore, pour moi, le fascisme et le sport étaient la même chose. Le fascisme m'offrait ses structures, une organisation, la possibilité de gagner des concours. Je participais au Camp Dux. Inscrit à l'Institut technique des géomètres dans une ville de Provence tranquille comme Cuneo, appartenait à une famille de la classe moyenne qui considérait la carrière militaire comme une forme de promotion sociale. Il avait traversé les années 30 avec un conformisme non critique. Je le cite, « Peut-être mon père avait-il compris que le fascisme était un système inacceptable, mais il n'avait jamais freiné mon enthousiasme, parce que le fascisme gagnait et que le non-fascisme était discriminatoire, dangereux. Même l'entrée en guerre n'a pas brisé cette opacité. Par même le coup de poignard dans le dos à la France, en juin 40, pas même la désastreuse agression contre la Grèce, avec des soldats s'enfonçant dans la boue des Balkans. L'Académie de Modène, où régnait une loyauté aveugle envers le roi et un mépris mal dissimulé pour le régime, considéré comme une affaire de parvenus, avait certainement atténué l'enthousiasme pour le fascisme, mais pas la fierté militaire. Ainsi, à la veille de la tragédie russe, le sous-tenant, ou sous-lieutenant, je ne sais pas, les Revelli, a gardé intact son esprit guerrier, à tel point qu'il a insisté pour pouvoir partir au front parmi les premières. J'étais convaincu que le devoir d'un officier était de partir le plus tôt possible pour faire ce pour quoi il avait été formé, c'est-à-dire la guerre. Et cette guerre, il disait, je la voulais gagner. Il est un fils parfait de son époque et de son pays. Mais c'est précisément ici que les conditions préalables à la transition vers sa deuxième vie commencent à mûrir, ou que le facteur intérieur et extérieur qui conduiront au point de rupture commence à s'accumuler. Le 21 juillet 1942, à 3h05 de la nuit, le long train qui amène la 46e compagnie du bataillon Tirano sur le front russe quitte la gare de Rivoli, comme il le note sur la première page de son journal. Dans l'obscurité, les soldats alpins chantent une chanson très triste sur le pont de Bassano, drapeau noir, dans laquelle il parle du deuil des soldats alpins qui partent à la guerre. Une douche froide pour l'esprit guerrier, un premier signe de la réalité perçant le mur de la rhétorique. Puis le long voyage, les arrêts dans les gares polonaises, où les Juifs apparaissent pour la première fois sous ses yeux, fantômes squelettiques, couverts de haillons, une grande étoile jaune sur la poitrine. Le premier indice que la Shoah, qui se déroule non loin, c'était là. Gardé par les Juifs, gardé par des SS qui se paranent avec une arrogance ostentatoire. Et un premier rayon de vérité bouleversant. Est-ce que c'est, je me demande, ma guerre, cette? Puis, lors de la longue marche à pied vers le Don, le spectacle macabre des partisans russes pendus par les Allemands au port des villages et le dégoût de la cruauté ostentatoire de ce monstrueux allié. La blessure reçue lors d'une patrouille sur le Don gelé et l'hospitalisation à l'hôpital militaire de Voroshilovgrad, aujourd'hui Louhansk, marque un nouveau pas vers le bout de la nuit, une nouvelle pièce de voile d'ignorance qui tombe, avec la découverte de la corruption généralisée qui règne à l'arrière, avec les imbéciles qui profitent des rations des soldats sur la ligne, la malhonnêteté, la thésaurisation, le cynisme des commandements, la servilité des subordonnés, un visage pour lui, jusqu'alors inconnu, de la patrie. Il s'est échappé de ce bordel, pour ainsi le nomme, pour retourner au front, où l'on pouvait au moins respirer un air pur, juste à temps pour participer aux préparatifs de la retraite, la grande immense tragédie des soldats italiens, le véritable moment de la vérité, lorsque les colonnes blindées russes, ayant perçait la ligne du front en plusieurs endroits et pénétrait profondément dans les tranchées pour fermer la poche, l'armée italienne se dessous et la grande fuite commence. Des dizaines de milliers de personnes désespérées s'entassent confusément sur les pontes gélées. Les lignes du commandement sautent. Les colonels pleurent. Les divisions se dispersent et s'agitent. Les blessés et les congélés sont abandonnés dans la neige, dans un « c'est chacun pour soi » général, au fond du cratère. À ce 25 janvier fatidique, dans la plaine entre Nikitovka et Nikolaevka, dans la nuit des fous, il l'appelle comme ça, dans la nuit des fous qui a précédé la dernière percée désespérée pour sortir de la poche, par 40 degrés au-dessus de zéro, avec tout s'effondrant autour, les isbas en feu, les hommes hallucinés, hurlant et s'abandonnant au désespoir, l'immense colonne des traînards désormais sans chef et les yeux des mules seuls à exprimer une humanité désormais perdue pour les hommes, alors qu'il avait, comme il écrira et le répétera d'innombrables fois, tout compris. Trop tard, mais il a compris ce qu'était le fascisme auquel il avait cédé son adolescence, quelle était l'armée à laquelle il avait confié son honneur et son identité, quel était le roi auquel il avait prêté serment d'allégeance. Cette nuit-là, écrira-t-il, le sous-lieutenant permanent des Alpini, Nuto Revelli, qui vient de recevoir une médaille d'argent, s'est écrit à lui-même et à tous. Je ne serai plus jamais officier de cette armée. À cette époque, il déclarera dans une interview très douloureuse avec Laura Pariani, j'ai maudit le duce, j'ai maudit le roi, j'ai maudit, une courte pause, l'armée, j'ai maudit, une pause plus longue, comme si le mot ne voulait pas sortir de ses dents, j'ai maudit la patrie. Après tout, sa deuxième vie avait commencé. Le partisan qui deviendrait, comme il l'écrira dans la chanson au titre terrible « Pietà le morta », était né. D'après, d'autres étapes étaient cependant encore nécessaires pour que ce processus de mort et de renaissance, cette métamorphose, non seulement politique, mais aussi existentielle, se concrétise, correspondant à d'autres dates de périodisation. Tout d'abord, le 25 juillet du Cantois, lorsque le régime tombe définitivement suite au vote de défiance envers Mussolini par le Grand Conseil du fascisme et que l'arrestation du duce est ordonnée. Le lieutenant Revelli, qui venait d'être promu sur le terrain, et qui se remettait de ses blessures et de la grave pleurésie qu'il avait contractée en Russie, était sur la place de Cuneo le 26, alors que tout le monde faisait la fête, croyant à tort que la guerre était terminée et que de la terrasse de son bureau de Cuneo, l'avvocat Duccio Galimberti prononçait un discours historique dans lequel il affirmait que la guerre continuait, mais contre les Allemands, anticipant de 45 jours le début de la résistance armée. Mais il ne se réjouit pas avec les autres. Il se méfie de cette foule en émeute qui arrache les symboles du régime et saccage les maisons des hiérarques, car il voit parmi eux trop de ceux qui, 3 ans plus tôt, sur cette même place, applaudissaient le duce annonçant la guerre à la France et criaient avec lui « Nous passerons ». Il n'a pas non plus applaudi Galimberti, car en tant que soldat, il se méfiait de ce civil dont le langage était trop politique à son goût. Et parce que, par erreur, il l'admettra plusieurs fois par la suite, il lui reprochait de ne pas avoir montré, plus tôt, quand il n'était pas encore trop tard, ces vérités qu'il prononçait maintenant du balcon. Et puis le 8 septembre, le vrai jour de la vérité définitive, le jour des choix ultimes, la date historique de la signature de l'armistice, lorsque, abandonné par le roi dans sa fuite vers le sud, l'armée s'est effondrée et avec elle le pays s'est dissous. Ce jour, le lieutenant Revelli, malgré son désenchantement et le sentiment de trahison subie, fait une dernière tentative pour vérifier la résilience de l'honneur militaire. Il fait le tour des casernes de Cuneo en employant les autorités militaires, les officiers supérieurs qu'il a réussi à rencontrer dans le chaos, d'organiser la résistance, utiliser le résidu d'organisation qu'il représente pour maintenir les unités ensemble et combattre les Allemands qui raflent les traînards par milliers pour les interner dans les camps de travail. En vain. Il ne peut qu'assister impuissant au spectacle dévastateur d'une armée entière, la 4e armée du sud de la France, qui se fond dans les rues et à la campagne de Cuneo, avec des officiers qui arrachent leurs galons, la recherche effrénée des vêtements civils pour se fondre dans la masse, le grand pillage des magasins militaires, les armements abandonnés partout. Une historiographie totalement identifiée aux classes dirigeantes italiennes et obsédée par leur continuité a voulu lire dans cet événement la mort de la patrie, identifiée dans le naufrage catastrophique de toute autorité formalisée. Alors qu'au contraire, exactement comme dans le cas des biographies considérées ici, il s'agissait en fait d'une possible renaissance, d'un nouveau départ potentiel auquel ont en fait travaillé ces hommes nouveaux avec un esprit de sacrifice qui, sur la base d'un choix libre et conscient, se sont mis en danger. Ce n'était pas un processus facile, ni au niveau collectif de la dynamique du groupe, ni au niveau individuel. Dans le cas du lieutenant Revelli, par exemple, il s'agissait de reconstruire complètement sa propre identité, son propre projet de vie, sa propre culture. Et il a réussi dans cette tâche parce que, grâce à la chance de pouvoir compter sur des professeurs de haut niveau, des hommes comme Dante Livio Bianco, et a pu apprendre l'ABC de la culture politique, qui lui ont parlé, Livio Bianco lui a parlé de Piero Gobetti, de Frère Rosselli, di Gaetano Salvemini, du Partito d'Azione, della Rivoluzione Liberale, della Rivoluzione Democratica, lui ouvrant des horizons qu'ils n'auraient jamais imaginé, et qui ont pu être assimilés si rapidement et efficacement parce qu'ils ont été redessinés au milieu d'une expérience existentielle extrêmement dense et dans le cadre d'une remise à zéro radicale de toutes les croyances et d'expériences antérieures, dans un processus de palingénésie radicale, l'énergie précisément de toute expérience révolutionnaire, qui a placé la responsabilité de chaque individu au centre d'un processus historique exigeant pour tous. Dans l'expérience du lieutenant vétéran, devenu commandant des partisans, Nuto, parmi les cabanes en ruine de Paraloupe, le petit hameau perdu dans les montagnes de Cuneo, où le groupe Italia Libera de Justice et Libertà est né et a grandi, ainsi que dans les nombreuses autres expériences similaires dispersées dans les Alpes et sur la crête des Apennins, le concept élaboré par le grand historien de la résistance italienne Guido Quazza du groupe des partisans comme microcosme de la démocratie trouve un sens et une signification. Pas seulement et pas tant une unité combattante, mais une communauté volontaire et participative dont l'éducation, ou plutôt la rééducation, à la pratique d'un mode de relation entre personnes radicalement opposé à celui de la dictature combattue constituait la vocation principale et dans laquelle ont été posées les premières promises culturelles, anthropologiques, politiques de la future société qu'il voulait construire. Je crois que dans ces aspects, à bien des égards spécifiques à la genèse et au processus de formation du mouvement partisan en Italie du Nord, résident de nombreuses particularités de la résistance italienne qui la différencient, au moins en partie, des autres résistances européennes, non seulement dans les Balkans, qui, comme nous le savons, ont leur propre dynamique, mais en France même, certainement en Grèce et dans les autres pays occupés par les armées allemandes. D'abord, cette polarisation interne, la biographie même des protagonistes, sur laquelle je me suis longuement étendu dans cette communication. Dans le changement brusque et radical de l'horizon existentiel et des fondements culturels qui ont marqué l'expérience de la plupart des jeunes hommes qui ont choisi le chemin de la montagne dans le vide institutionnel du 8 septembre sur la base d'un choix individuel fait, chacun dans la solitude, presque comme si, pour chacun, le choix de résister constituait un nouveau départ, le choix électif d'une nouvelle patrie, d'une nouvelle vie, ce qui configure cette résistance non seulement comme une lutte contre un envahisseur extérieur, mais comme une confrontation intime, voire intérieure, avec soi-même, son passé, son moi passé, ses vices individuels et collectifs et ses fautes historiques. Je l'avais déjà dit l'autre moi. J'ai cité alors Vittorio Foa, ici à Paris, et je le cite à nouveau aujourd'hui, lorsqu'au début de l'année 44, quelques mois après avoir été libéré de la prison Regina Coeli, où il avait purgé 8 ans pour antifascisme, a écrit qu'à la différence de ces autres peuples, l'Italien doit non seulement combattre et vaincre un ennemi extérieur clairement identifié dans son visage menaçant et violent, mais il doit aussi combattre lui-même le mirage vide des destins impérieux, l'égoïsme aride qui nie l'œuvre commune des peuples, en un mot, le nationalisme, l'effondrement catastrophique du 8 septembre, c'est sa conclusion, marque le début d'un processus révolutionnaire qu'il a entraîné les Italiens dans un engrenage tourbillonnant dont ils ne pourront sortir que par leur propre force. Il ne faut pas non plus sous-estimer le contexte dans lequel a mûri le choix de la résistance, dans un vide institutionnel total, sous la pression d'un événement instantané et exceptionnel, dans une liberté absolue vis-à-vis de toute autorité et en même temps sous la nécessité imposée de l'énormité des événements. À l'exception d'un nombre limité d'antifascistes de longue date, principalement des communistes qui avaient vécu en exil, dont la plupart avaient combattu pendant la guerre civile espagnole, ou des membres de Justice et Liberté qui s'étaient pour la plupart réfugiés en France, la grande majorité des partisans étaient des jeunes gens très semblables au lieutenant Revelli, ce qui allait constituer l'épine dorsale de l'antifascisme existentiel, tel que le définit Quazza, et qui devait former leur conscience politique à partir de rien, à travers un processus vertigineux d'acculturation, une nouvelle élite construite dans la brousse qui apportera dans l'après-guerre le charisme novateur de cette nouvelle culture, mais qui aura beaucoup de mal à s'insérer dans les institutions de la République, caractérisées au contraire par une continuité substantielle. Cela expliquerait comment le monde de la résistance en Italie est parvenu à exercer une hégémonie culturelle considérable dans la longue période de l'après-guerre, sans toutefois réussira à influencer l'équilibre et les grands choix politiques, sauf dans une très faible mesure. Si l'on exclut la rédaction de la charte constitutionnelle, dans laquelle la génération de la résistance et de l'antifascisme a laissé son empreinte, la vie politique et institutionnelle italienne, tout au long des années 50 et au-delà, conservera de profonds signes du passé.
Jean-Louis Panicage,
professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Nice. Nous l'avions invité, nous aurions beaucoup souhaité qu'il puisse être présent, puisque finalement, il a été l'un de ceux, sinon le seul, en tout cas d'entre nous, à avoir, entre 1974 et 1990, eu plusieurs rencontres avec Nuto Revelli. Je l'avais identifié dans la biographie à travers une petite note qui citait l'un des épisodes sur lesquels on reviendra, c'est-à-dire l'histoire de ce foyer juif créé pendant l'occupation italienne d'une petite partie du sud-est de la France après l'invasion de la zone libre par l'Allemagne en novembre 1942. Donc, avaient été regroupés là des réfugiés juifs d'Europe centrale, d'un peu toutes les origines, qui vivaient à Saint-Martin-Vésubie, dont nous avons tous entendu parler dans les journaux à cause d'un épisode torrentiel particulièrement violent. Et on avait découvert lors d'un passage à Saint-Martin-Vésubie que était fêté par tous ce transfert des prisonniers, des réfugiés juifs, en fait, qui vivaient en liberté sur le territoire de Saint-Martin-Vésubie, sans être emprisonnés, et que les officiers italiens de Saint-Martin avaient reçu l'ordre de leur gouvernement d'abandonner sur place aux troupes allemandes, donc, et de rentrer elles-mêmes en Italie pour continuer leur service de l'autre côté. Et pour une fois, ce qui n'arrive pas toujours dans le milieu militaire, les officiers italiens avaient choisi de désobéir et ils avaient choisi choisi d'emmener avec eux pour les protéger. C'est à peu près ces 2000 personnes qui ont emmené à travers le marché héroïque à travers la montagne pour arriver précisément à San Dalmazzo, d'abord au San Dalmazzo, de l'autre côté, où bien entendu les troupes allemandes les attendaient, mais n'ont pu s'emparer qu'à peu près la moitié, les autres ayant pu se sauver, ayant eux-mêmes participé pour une partie à la résistance italienne dans la suite de la guerre. Et Panicacci avait écrit quelque chose là-dessus, donc je m'y suis reporté, mais c'était une découverte purement touristique de ma part. Donc Jean-Louis Panicacci ne pouvait pas venir aujourd'hui parce qu'il préside une association locale importante d'histoire à Nice. C'était aujourd'hui le transfert de leur bureau, le déménagement, etc. etc. Il n'était pas question qu'il se déplace. Mais il nous a fait parvenir un texte assez court qui fait le récit de ces rencontres avec Nuto Revelli.